Radio Spirale. Aujourd'hui, une rencontre avec la traductrice, interprète et conteuse Marie-Célie Agnan, qui a eu lieu à la librairie Olivieri le 18 octobre 2010. Une rencontre animée par Gilles Dupuis et organisée dans le cadre des rencontres d'écrivains du CRILC.
Bienvenue à cette deuxième rencontre organisée par le CRILC cette année qui met à l'honneur les écrivains haïtiens ou québécois d'origine haïtienne, enfin comme vous voulez, comme vous définissez ou comme vous voulez vous définir. Et ça me fait donc un immense plaisir de vous présenter ce soir Marie-Célie Agnan. Pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait. Marie-Célie Agnan, elle est née à Port-au-Prince, en Haïti, et elle vit au Québec depuis 1970. Elle a travaillé comme enseignante de français, d'abord, puis traductrice et interprète, et elle se consacre depuis 1994, au moins, de façon régulière, à l'écriture. Elle est auteure de poèmes. En fait, vous allez voir, elle pratique tous les genres. Elle est auteure de poèmes. Elle a déjà deux recueils de poésie à son actif. J'y reviendrai parce qu'elle a commencé, elle est entrée en littérature par la poésie et son tout dernier livre est de poésie aussi. Elle a écrit des romans, dont trois romans majeurs sur lesquels je vais revenir tantôt, des nouvelles, un recueil de nouvelles, et de nombreux contes et récits pour enfants ou pour la jeunesse. Donc on va couvrir l'ensemble de ses activités d'écrivaine. Elle a aussi une expérience ponctuelle, occasionnelle avec le théâtre. Elle collabore donc occasionnellement avec le Bread and Puppet Theatre du Vermont. Et là aussi, on verra un peu de quelle façon en fait elle exerce cet intérêt pour le théâtre. Et de façon générale, je dirais que son œuvre se veut à la fois réaliste et engagée au sens social du terme, mais même politique, si on entend par politique. La vie dans la cité, les prises de position au niveau social. Elle écrit, entre autres, je dirais, contre le racisme, contre le sexisme et je dirais contre tous les systèmes d'exclusion, ce qui ne veut pas dire parfois aussi qu'on n'est pas victime soi-même parfois d'exclusion et que comme écrivain, on n'est pas obligé de supporter le poids de la solitude, ne serait-ce que pour avoir le courage de ses convictions. Alors, ça serait le portrait que je esquisserais à grands traits de Marie-Célie. Et je vais commencer donc cet entretien à partir du titre qu'on a choisi pour cette rencontre. Ce titre qui a été à la fois suggéré par Marie-Célie Agnan, qui m'avait donné le mot-clé « traversé ». Et ensuite, j'ai ajouté « de vie », parce qu'à partir des échanges qu'on a eus, c'était peut-être ce qui revenait le plus souvent dans son descriptif, c'est-à-dire son rapport intense à la vie, au réel, au monde. Et donc, j'aimerais d'abord, avant qu'on commence à faire des lectures et qu'on poursuive ensuite avec les questions, vous entendre, Marie-Célie, sur ce titre-là qu'on a choisi, « Traversée de vie », c'est-à-dire « La vie comme traversée ». Et dans votre cas, c'est au sens à la fois littéral et littéraire du terme, c'est-à-dire vous êtes parti d'Haïti, vous êtes arrivé ici, c'est une traversée réelle, mais c'est aussi une traversée métaphorique. Tout écrivain a une trajectoire d'écriture, mais aussi ce qui ressortait beaucoup dans les échanges qu'on a eus, c'est que votre propre vie est traversée par plusieurs autres vies. Vous êtes beaucoup en contact avec les gens, ça vous marque et ça a des répercussions dans votre écriture. Alors, j'aimerais vous entendre d'abord sur tous les sens que peut avoir ce titre pour vous, « Traversée de vie ».
Bien, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'être ici un lundi. En général, le lundi, on a l'impression que le week-end se poursuit et qu'on n'a pas trop envie de bouger. Alors, c'est d'autant plus précieux que vous soyez là. Merci, Gilles, pour la présentation. Pour expliquer un peu, enfin, pourquoi j'ai suggéré ce titre, je te l'ai dit, l'écriture, c'est quelque chose qui, pour moi, il n'y a pas l'écriture et puis Marie-Célie en tant que personne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a toujours été lié à moi et c'est quelque chose qui m'accompagne. Comme par exemple la poésie, elle joue plusieurs rôles. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me tient la main sur la route, sur le chemin. Je dis souvent que mon écriture est, nous sommes la somme, enfin, d'autres personnes l'ont dit, nous sommes la somme des gens qui ont traverser notre vie, nous sommes la somme de tout ce que nous avons vécu. J'ai, à mon arrivée au Canada, j'ai été dès ma 17e année, très très liée aux communautés latino-américaines. Nous savons que les Chiliens sont arrivés ici à partir du coup d'État contre Allende dès les années 73, je me suis sentie très très proche de cette communauté, de la communauté des Argentins aussi, et un peu plus tard des Salvadoriens, des Guatémaltèques qui arrivaient en grande vague ici, poussés par la répression qui faisait rage dans ces pays, dans ces deux pays dans les années 80. On sait qu'au Guatemala, il y a eu ce qu'on appelle la politique de terre brûlée, où on arrivait, les militaires arrivaient dans un village, les escadrons de la mort rassemblaient les gens et mettaient le feu, brûlaient et tuaient, pillaient. Alors les réfugiés arrivaient en grande vague. Pendant cette période, j'étais encore à l'école, mais je travaillais aussi dans un organisme communautaire. J'ai l'impression, je dis souvent que mon gagne-pain à cette époque-là était aussi de la militance. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait beaucoup de différence entre la militance et ma vie et ma manière de vivre, enfin de gagner ma vie. Alors, l'écriture est traversée par tout ça également. Et je dis souvent que c'est au contact des exilés latino-américains que j'ai appris à nommer le mal dont souffrait mon pays, Haïti. Je quitte Haïti, je vais avoir 17 ans, et à l'époque, c'était un peu confus. On sait qu'il se passe des choses horribles. Toute mon enfance, j'ai vécu une enfance sous Duvalier avec la peur, avec la terreur. Mais les gens n'en parlent pas. Le silence, c'était quelque chose de tellement important en Haïti. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il nous envahissait, qu'il nous tuait littéralement. On n'a jamais parlé de ce qui se passait. Un des événements que je relate dans l'alligator d'une maison qui a brûlé avec tous les occupants de cette maison. J'avais 9 ans, j'ai été témoin de cette chose-là parce que l'école où j'allais, c'était une école de religieuses. Ils nous ont dit, bon, allez chez vous. Et dans la rue, j'ai vu la maison en flammes, c'était des voisins. Et j'arrive chez moi où personne ne peut nous dire ce qui s'est passé. Alors j'ai l'impression qu'on a intégré toutes ces choses-là, mais sans vraiment les enfants pouvoir dire exactement. Et en arrivant ici, au contact de tous ces exilés qui sont arrivés avec une tradition de lutte et de militance, les Chiliens, j'ai pu comprendre Haïti, comprendre son mal, et ouais, ça a été un peu ça. Quand je parle de traversée, c'est un peu ça, voilà.
C'est quand même assez étonnant d'un certain point de vue, parce que très souvent, quand on quitte un pays justement parce qu'il y a la violence, la dictature, etc., quand on revient, on arrive dans le pays d'accueil, on essaie de tourner le dos à ça. Et dans votre cas, au contraire, vous vous êtes impliqué davantage avec d'autres communautés latino-américaines, dans ce cas-ci, comme vous dites, chilienne, argentine, pour continuer le combat, en fait, contre les injustices ou contre...
Absolument. J'ai été membre fondateur d'un organisme qui s'appelle Disparu Tiers-Monde, avec un homme qui a l'époque m'a beaucoup appris, m'a beaucoup apporté, qui s'appelait Bautista Banchoen, qui était père d'un dirigeant du MIR, qui lui-même avait été assassiné. Le MIR, c'est le mouvement de la gauche. Et c'était un très vieux monsieur. J'ai eu de très, très vieux amis à cette époque-là. Et voilà, c'était un peu ça. C'était le quotidien. Je me rappelle, quand j'ai eu des enfants, on faisait souvent les réunions des gens de l'association à la maison. Et ma fille, qui avait 3 ou 4 ans, me disait, « Maman, voici les disparus qui arrivent. » Comme l'association s'appelait Disparu Tiers-Monde. Alors, c'était un peu ça. Alors, mes enfants également ont baigné dans cette époque. Bon, c'est une époque... Enfin, donc j'ai un peu la nostalgie, mais voilà, c'est un peu ça. C'est dès l'âge de dès l'adolescence, la fin de l'adolescence, en arrivant ici, que j'ai été vraiment dans ce bain-là et que je suis encore très très impliquée. Mais l'écriture, c'est pour moi une autre manière de c'est une réponse à ce besoin de dire des choses. Et je crois que j'ai pris la résolution de me mettre de manière très assidue à l'écriture après avoir participé à la marche des femmes, pas la marche des femmes, à la conférence internationale des femmes à Beijing. Je pense que je suis revenue vraiment très, très déçue de Beijing. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que c'est ça la militance? Est-ce que c'est... Enfin, suivre des femmes qui deviennent un peu comme des fonctionnaires du féminisme international, est-ce que c'est ce que je veux? Et je me suis dit, bon, je pense que je vais essayer de m'adonner à l'écriture. C'est-à-dire, j'écrivais, mais sans vraiment beaucoup de conviction. J'écrivais pour des soirées de solidarité, j'écrivais enfin par besoin de dire un peu des choses tout haut, certaines choses, et là j'ai décidé, bon, de de faire porter la voix beaucoup plus loin que qu'à Montréal, et c'est un peu ce qui s'est passé avec les différents.
Merci, ça donne déjà un peu le ton, je pense, à cet échange, en fait, à l'engagement social, la conscience sociale, l'engagement, le militantisme même qui vous animait dès votre arrivée à Montréal et qui traverse votre œuvre, que ce soit de façon assez évidente, on va le voir tantôt quand on va aborder, je pense, les romans, mais qui est aussi présent dans la poésie, enfin, dans tout ce que vous écrivez. Et justement, donc, le premier genre que j'aimerais aborder, c'est la poésie, parce que c'est votre entrée officielle en littérature, en tout cas ici. Je ne sais pas si vous avez écrit autre chose qui n'était pas publié au Québec ou qui était publié ailleurs, mais votre premier livre publié ici, c'est Balafre, dans votre recueil de poésie en 1994. Et en même temps, le tout dernier livre sorti, c'est aussi un recueil de poésie, et puis parfois, quelquefois. Donc, on a les deux extrémités en ce moment-là. Évidemment, il y aura d'autres choses par la suite. Mais donc, la poésie, l'entrée en littérature, en poésie, et éventuellement le retour de la poésie, alors qu'on peut-être qu'on s'y attendait pas après les romans, les nouvelles, etc. Donc, peut-être avant de poser des questions sur cet aspect de votre œuvre, peut-être que ce serait le bon moment de nous lire un poème, de donner un avant-goût de votre écriture poétique.
D'accord. Je peux dire que la poésie, c'est un peu comme un marqueur des étapes pour moi. Je peux dire que je n'écris pas beaucoup, beaucoup de poésie, mais qu'il y en a quand même. Dans tout ce que j'écris, tous les romans sont, à mon avis, il y a une écriture quand même assez poétique. Mais la poésie, elle sert de marqueur d'étape. Et le texte que je vais vous lire, pendant quelques années, j'ai aussi écrit dans un journal de la diaspora haïtienne qui est édité aux États-Unis et qui est très lu en Haïti. Il y a comme ça plusieurs journaux d'importance, enfin plus ou moins importants, mais qui sont très très lus en Haïti. Et je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire. J'ai arrêté d'écrire sur Haïti et les gens me demandaient, me sollicitaient. Je n'arrivais pas du tout à le faire, à parler d'Haïti. Et un jour, ils m'ont relancé, et c'est, voilà, le texte que je vais vous lire, c'est celui-là qui est sorti peut-être après, je sais pas, 5 ou 6 ans, où j'ai systématiquement refusé de parler d'Haïti. Et le titre, c'est « Poème en détour pour une passion avortée ». Je ne sais plus la taille de tes palmiers, ni reconnaître le souffle de l'Alysée, sa course dans le ciel, son chant dans le feuillage. Une branche frôle la toiture, tremblante, je guette l'animal qui cherche à entrer dans la case. Faut-il te demander pardon, ô terre de ma mère, là où ses eaux reposent? Faut-il t'arroser de ce qui me reste de larmes? Je suis sourde à l'appel de ta chair, de ce qui reste de cette chair, de ce qui reste de lambeau. Mais il y a si longtemps que j'ai pleuré. Je ne sais plus comment agencer sur ma langue les syllabes de ton nom. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ratatiné au plus profond de la souffrance, il fallait que je désapprenne à t'aimer. Je suis là, le cœur vide, mes mains vides battent le vide et mes yeux vides ne savent plus la hauteur de tes palmiers. Pourtant j'ai tant rêvé de toi, tellement eu besoin de toi, tant et tant de nuits et tant d'années. Mais il fallait que je cesse de t'aimer pour apprendre enfin toutes ces choses, ces détours indispensables qui me permettent d'endormir l'exil, d'oublier la honte, de troquer ma faim de toi contre un flot de paroles et tenter de bâtir un gîte sur les décombres de ma passion. Mais je veux croire encore que dans le chahut de la nuit, on arrive à réentendre les accords des cris sur le souffle lointain du tambour.
Merci Marie-Célie. Ça nous donne déjà, je pense, un avant-goût de votre filon poétique qui, malgré la détresse, la violence, le monde très dur que vous mettez en scène souvent dans les romans, est presque une oasis de paix recherchée, en tout cas de solitude, de paix dans ce monde chaotique que vous mettez en scène par ailleurs dans vos romans. Ouais. Non, c'est ça, le commentaire.
Je me demande, est-ce que j'étais partie en rêvant?
Rêvant. Non, mais j'ai quand même une vraie question après avoir fait ce commentaire. Une question qui m'a un peu taraudée après avoir lu Balafre, évidemment le premier recueil de poésie, et là vous venez de lire un poème du dernier recueil. Justement, on parle de Balafre. Une balafre, c'est une cicatrice profonde qui laisse sa marque. Une fois qu'on est balafré, on est marqué pour la vie, on voit tous le signe de la blessure. Et vous dites quelque chose d'assez étonnant dans l'introduction. Si vous me permettez de lire un petit peu.
Oui.
Et ensuite, je vais, parce que j'ai repéré un autre passage que je trouvais un peu intriguant dans le dernier recueil. Vous dites, dans votre introduction de ce recueil, « Parce qu'en héritage, on reçoit la part la plus pauvre du monde et la colère, on se barricade pour survivre derrière les mots. La poésie, dire d'un instant pour traquer l'indicible, les spectres et les silences, crever les bulles, débloquer les peines, cautériser les plaies, s'assurer qu'elle se cicatrise. » Donc, le premier recueil, c'est Balafre. C'est la cicatrice qui, oui, la plaie qui est cicatrisée, mais qui est quand même toujours visible. Et là, on a l'impression que vous donnez à la poésie cette fonction, ce pouvoir peut-être de cautériser les plaies, de s'assurer qu'elle se cicatrise. Donc, la première question, c'est est-ce que la poésie a ce pouvoir-là pour vous? Est-ce que la poésie guérit des plaies?
Elle ne guérit peut-être pas, mais elle soulage, elle aide à vivre. Enfin, moi, c'est ce que la poésie fait pour moi. Elle aide à vivre. Et parfois, j'ai l'impression, quand j'écris un poème, de dresser sur la table un bouquet de fleurs. C'est un peu ça. Quand je me sens, quand j'en ai besoin, je vais m'acheter des fleurs. Hein? Je n'attends pas qu'on me les offre, je vais les acheter moi-même. Et la poésie, c'est un peu ce rôle qu'elle joue pour moi. C'est un rôle d'accompagnatrice, en quelque sorte. Et il m'arrive aussi d'offrir des poèmes aux gens. Entre autres, le deuxième texte que je voudrais vous lire, c'est un texte que j'ai offert à ma fille, qui a vécu quelque chose d'assez pénible à un moment donné où son petit ami s'est tué. Vous savez, la question du suicide au Québec, dans le monde occidental, peut-être ailleurs aussi, je ne sais trop, mais comment c'est dur. Les jeunes se tuent, nos jeunes, 26 ans, 27 ans. Et c'est quelque chose qui était tellement, tellement, tellement pénible, vous voyez, que je sentais que j'étais tellement impuissante que tout ce que je pouvais lui offrir, c'était un poème. Mmh. Est-ce que, enfin, elle m'a dit que cela lui a fait du bien, mais j'espère que oui, et voilà, c'est un peu ça.
Je ne sais pas
si je réponds à ta question.
Oui, tout à fait. Mais oui. Justement, mais avant peut-être de lire l'autre extrait, par contre, vous dites, ça c'est dans un poème du deuxième recueil, un très long poème du deuxième recueil, « Poème sans âge ». Vous avez cette phrase, « Les cicatrices même ont perdu tout souvenir ». J'étais donc toujours à l'affût de la cicatrice de la balafre. On dirait que c'est un thème récurrent dans votre poésie. Les cicatrices même ont perdu tout souvenir. Donc, si on ne guérit pas, est-ce que le baume sur les plaies, c'est l'oubli? Est-ce qu'on peut oublier?
Non, on n'oublie pas. C'est peut-être la raison pour laquelle je dis que les cicatrices ont perdu tout souvenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il faut savoir aussi que qu'on soit poète ou écrivain, on n'est pas à l'abri des contradictions. Dans le même texte, vous allez trouver des contradictions. Vous voyez, mais quand je parle ici, quand je fais référence aux cicatrices qui ont perdu tout souvenir, c'est un poème que j'écris sur l'état du monde. Je ne sais pas si vous en avez, pris conscience lorsque vous avez lu ce texte, ce poème sans âge. J'ai comme l'impression d'écrire le même poème qui, à la fin, n'a plus d'âge. Vous savez, je l'ai écrit il y a 20 ans, je l'ai écrit il y a 30 ans et je l'écris encore aujourd'hui. Il n'a pas d'âge, toujours ce même leitmotiv, ce chant du monde, ce triste poème, voilà, c'est sans doute une contradiction, mais...
Non, je dirais pas c'est une contradiction, mais on a l'impression qu'il y a à la fois la recherche d'une certaine, d'un soulagement, d'une certaine guérison de soulagement, mais aussi la conscience qu'on n'y arrivera jamais.
Absolument, qu'on est impuissant. Alors si ça peut aider, si ça peut soulager, ça peut soulager... quelques heures, quelques jours, quelques mois, oui, ça soulage. Et puis bon, il faut en écrire d'autres.
Oui. Hein?
C'est toujours le remède qu'il faut sans cesse reprendre. Moi, c'est comme ça que je vis l'écriture en quelque sorte. Oui. Ça répond à des instants de ma vie, à des moments. On le voit de manière très très claire dans ce livre que c'est la poésie, c'est quelque chose qui nous met à nu et on devient on n'a plus de pudeur quand on est poète, en quelque sorte. Vous voyez, on écrit à partir de ce qu'on vit, à partir de ce qu'on a envie de dire. de ce qui se passe dans notre vie. Et puis voilà, c'est... On a des douleurs, on écrit un poème pour nous soulager. Et puis bon, quand on a mal encore, on en écrit un autre. Moi, c'est un peu ça.
C'est peut-être pour ça que j'aime tellement le titre « Balafre » pour le premier recueil, parce que comme j'ai dit, la cicatrice, elle est là, bien visible. Une balafre, c'est quand même marqué. Mais en même temps, on a peut-être oublié qu'est-ce qui a causé cette cicatrice.
Sans nul doute, on l'oublie. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de demander à quelqu'un qui écrit de tout expliquer. Hein. On vit l'écriture, on le vit de manière très intense, et puis bon, on l'offre aux gens, et puis voilà, on est là à balbutier. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Okay. Voilà.
Alors, peut-être que vous aimeriez lire un extrait de Balafre, alors.
Ah ben, sans doute, oui. Le texte s'intitule « La Gésine ». C'est un texte qui date des années 80, au moment où je croyais qu'Haïti, c'était un pays qui s'ouvrait vraiment vers quelque chose de différent. Enfin, c'était le souhait de plusieurs. Elle venait de nulle part. Elle allait dans le pays gangrené, la chimère collée à la peau, une cuirasse. Elle allait citant Lorca, la voix éclatée, tel un fleuve emporté, les poings levés. Il se disait qu'elle s'était enfuie de l'asile, on ne sait, qu'elle était maudite. Quand sa voix enveloppait le vent, les mères sous leurs jupons cachaient les enfants. Elle disait, regardez-moi, je suis grosse depuis des lunes, j'attends que mes époux reviennent, et je mettrai au monde un ouragan pour faire bondir de la cendre les chiens endormis. Certains soirs, on l'entendait chanter. Ses mots parcouraient les déserts arides, les villes catacombes, sa voix lacérait le vent, mettait le prurit aux mémoires. Regardez-moi. Dans mon ventre enflammé, je porte les rêves des hommes. Ils ont semé dans mon jardin des braises de liberté. Dans mes reins, je berce la fougue des hommes. Et le pays affolé frissonnait lorsqu'elle écrivait sur les ailes du vent les noms de ses hommes. Elle venait de nulle part, elle disait chanter pour passer le temps, attendre que ses hommes reviennent. Son chant montait, enflait l'océan, crevait l'horizon. J'entends passer le souffle du diable. Les feuilles des arbres tombent sans trêve, courent se réfugier derrière les portes des grands-mères. Les grands-mères percluses qui ne balaient plus, qui ne se bercent plus sur le pas des portes. Avec des grimaces sous les paupières, elles tremblent et poussent les volets, elles entendent passer le souffle du diable. Son chant décoiffait les maisons, pénétrait sous les lits, les couilles des chiens endormis claquaient des dents. J'entends passer le souffle du diable. Les roseaux ne danseront plus au rythme des battoirs des femmes. Les femmes sont parties, les mains sèches, les seins vides, elles sont parties. L'aube s'est fourvoyée. Son chant montait, obstiné. Si mes paroles ont goût d'amertume, c'est que ma rage tremble, les vautours sont lâchés, éclabousse le jour, j'étouffe. Ce pays gangrené, trop petit pour ma haine. Ma voix est un surin, ma voix est un stylet. Que dis-je, rafale de venin qui s'impatiente sur l'abîme. Ma voix siffle exaspérée puisque les chiens se taisent. Si mes paroles ont goût d'amertume, dans ce pays les hommes ne sont plus des hommes. Ils marchent de biais, les crocs dehors, le cul béant, vendent leur mère et leur fille, vitriolent les rêves des enfants. Si mes paroles ont goût d'amertume, il y a tout ce sang lourd qui engrosse ma terre défigurée depuis tant de lunes. Aïe, si j'ai si mal, je dégueule, je crache, me voilà dragon, serpent, je siffle, hurle, piaffe. C'est pour tous les chiens muets tapis dans la cendre. Ma voix, ma vie, mes tripes, mes mots, pourquoi si je ne peux hurler au monde que l'aube s'est fourvoyée? Je suis grosse depuis des lunes, j'attends que mes hommes reviennent. L'ouragan de ma vie écartelée, bientôt jaillira par tous les chemins muets.
Merci. Merci. Dans ce poème, on retrouve l'autre veine qu'on va peut-être retrouver encore davantage dans les romans, c'est-à-dire une rage sourde, la révolte, le cri contre l'injustice, l'inhumanité, puis en même temps, une difficulté de pouvoir faire en sorte que de changer les choses. Mais bon, j'y reviendrai tantôt, peut-être plus tôt pour le roman. Peut-être une dernière question. En fait, c'est pas une question, c'est quelque chose qui m'a frappé à la lecture de Balafre. Vous avez souvent en exergue des poètes sud-américains ou espagnols. Je pense à Machado, à Neruda, à Garcia Marquez, et très peu, en fait, de poètes haïtiens. On en a parlé un petit peu tantôt. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes impliqué beaucoup dans le travail de solidarité avec la diaspora sud-américaine. Mais au-delà de ça, est-ce que vous vous retrouvez plus dans la littérature espagnole ou sud-américaine que dans la littérature haïtienne?
Au fait, je dois dire qu'il y a quand même une espèce de trou dans mon éducation. Parce que quand on quitte Haïti à l'âge de 16 ans, c'est le moment où on s'apprête à aller vers les études supérieures qui nous donnent accès à tous ces grands auteurs. Et moi, vraiment, j'ai quitté Haïti, je suis venue à l'école ici et tout de suite, j'ai été prise dans un tourbillon plutôt latino-américain et vraiment, je me suis prise d'amour pour certains poètes comme Lorca qui est par exemple un poète ses livres se retrouvent sur ma table de chevet. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine et puis bon voilà, ça a été un peu ça sans c'est-à-dire nier la part de en fait ce que j'ai la part des écrivains haïtiens dans ma formation, par exemple quelqu'un comme Marie Chauvette, quelqu'un comme Jacques Roumain, quelqu'un comme Jacques Alexis, ce sont pour moi aussi des auteurs que je dois dire qui ont joué un très grand rôle dans ma vie en tant que personne et en tant qu'écrivain. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de manque et je ne peux pas dire que je sois vraiment quelqu'un de très versé dans la littérature haïtienne. Bon, à cause du fait que j'ai terminé mes études secondaires ici au Québec, j'étais au cégep ici et vraiment, non, c'est...
Je le voyais pas comme un manque, je le voyais plutôt comme un enrichissement au contact d'une autre littérature, d'autres cultures.
Oui, oui.
Alors qu'on a toujours tendance à signer à quelqu'un son identité. Voilà, tu dois connaître ta littérature au Québec, on connaît ça, hein. Faut connaître la littérature québécoise à fond, etc. Alors que cette ouverture déjà très tôt, en tout cas en poésie, dans une autre littérature.
Mais c'est quelque chose qui a à voir aussi avec l'affection particulière que je porte non seulement à l'Amérique latine, mais en tant que personne issue du tiers-monde. Pour moi, c'est très, très important, mais ça va au-delà, vous voyez, parce que, par exemple, la littérature sud-africaine, c'est quelque chose qui me passionne. Les auteurs comme Gordimer, des auteurs comme André Brink, des auteurs, vous voyez, qui ont beaucoup écrit sur l'apartheid, sur le racisme, sur les choses que moi, sur lesquelles j'aurais envie d'écrire, vous voyez. Des auteurs turcs comme Yaşar Kemal, vous voyez, tous les gens qui ont ce genre de littérature de revendication, je les affectionne. Et puis bon, c'est peut-être sans doute pourquoi j'affectionne quelqu'un comme Marie Chauvette ou Jacques Roumain, ou je crois que c'est plutôt une question de communauté, pas plutôt de littérature, mais plutôt de ce qu'ils écrivent et de communauté. Voilà, c'est un peu ça, oui.
D'accord, merci. Justement, ça va nous permettre de passer, disons, une deuxième phase, si on veut dire, dans votre production, c'est-à-dire quand vous arrivez au roman. Et évidemment, là, je vais sauter un peu dans la chronologie parce que je vais poser mes questions qui tournent autour du roman. Alors, déjà en 95, il y a La dot de Sarah. Puis plus tard, Le livre d'Emma en 2001 et Un alligator nommé Rosa en 2007. Je vais m'en tenir donc à ces trois grands romans qui ont tous en commun, je pense, de mettre en scène d'abord des vies de femmes. Ça, je vais y revenir tantôt pour une question. Et oui, évidemment, un engagement social très aigu. Alors peut-être, avant de poser ma première question, ce serait bien de lire un extrait soit du livre d'Emma ou...
Ça sera du livre d'Emma qui... Enfin, chronologiquement, il a paru avant le... C'est-à-dire, pour situer un peu les lecteurs, le livre d'Emma, je dis parfois que c'est le livre que je portais en moi depuis toujours. C'est un livre qui est... C'est difficile pour moi de dire, voilà, c'est un livre qui parle de telle chose. Parce qu'à mon avis, c'est comme un peu un roman comme une poupée gigogne. Il y a tellement de thèmes différents dans ce livre-là. Il a été construit comme ça, sans vraiment le vouloir. Lorsqu'on pense avoir cerné un thème, il y a autre chose qui se révèle. Et c'est à cause de toutes les différentes lectures qu'on en a fait dans les universités, les gens qui ont travaillé là-dessus, que j'ai pu moi-même comprendre un peu, l'intensité ou l'importance de ce livre-là. Je dois dire que, pour le résumer un peu, il y a le passage que je vais lire, il y a une revendication d'une fille, enfin, qui se nomme je sais même plus, Emma, voilà, et qui se nomme Emma et qui parle de un amour inconditionnel, un amour vraiment très très fort pour sa mère qui la rejette. C'est une question de couleur de peau, une question de refus de la mère d'aimer cette fille à cause de la couleur de sa peau. Haïti, c'est un pays qui, à cause de son histoire coloniale, n'échappe pas, vous voyez, à certains problèmes que l'on retrouve aussi ailleurs. La question de couleur qui a joué différents rôles. Duvalier l'a utilisé comme une arme politique, d'autres personnes l'utilisent pour différentes raisons. Et c'est un peu un récit mythique qui parle aussi beaucoup de l'esclavage, mais le passage que je vais vous lire, c'est un passage où elle parle de cet amour sans borne qu'elle voue à sa mère qui s'appelle Fifi, mais qui la rejette littéralement. Fifi n'a jamais parlé du jour de ma naissance, comme s'il n'avait jamais eu lieu. Fifi était ainsi. Elle enterrait sous le silence tout ce dont elle ne voulait point. Et il m'arrive souvent de croire que je porte au fond de moi les silences de Fifi, comme des pierres au fond d'un sac, ils me remplissent. Oui, fait Emma en secouant la tête pour se convaincre, comme Fifi nous a porté dans son utérus, moi je porte les silences de Fifi. Dans une absence totale de paroles, j'ai dû apprendre dès mon plus jeune âge à découvrir sur son visage les multiples vérités reliées à mon arrivée et à ma présence en ce monde. Par exemple, écoute bien, à l'instant où Fifi s'y attendait le moins, surgissait au bord de ses paupières, à la commissure des lèvres, une douleur que j'étais seule à deviner. Il s'agissait, je le sais, du souvenir de ce jour où mon cri, pareil à un scalpel, lui avait déchiré le corps. Tel un courant d'air glacial, cela partait de son regard, suivait le chemin jusqu'à sa bouche, amère, puis se glissait jusqu'à moi, s'emparait de mon visage, de tout mon être. Les yeux de Fifi ne faisaient que m'effleurer, mais sa douleur me pénétrait, me ligotait, me paralysait et m'embrasait. Malgré tout, je me disais que mieux valait cette souffrance, tout le poids de cette souffrance, plutôt que d'être séparé de Fifi. Mes premiers souvenirs d'enfance, à part celui de ma naissance et du bleu inaccessible, sont les chiens. Les chiens faméliques au pelage décoloré que l'on chassait sans cesse à coups de pierre, qui s'enfuyaient, boitillant et hurlant de douleur, mais qui sans cesse revenaient toujours rôder aux abords des cases. Je les prenais dans mes bras, enfouissais mon nez dans leurs poils rares et pleins de tiques. Ils léchaient mon visage et mes mains sales. Conforme à son habitude, Tante Grazie se mettait alors à trépigner et à crier que j'aurais dû venir au monde avec quatre pattes. Sous le regard plein de dégoût de Fifi, qui se taisait, ne disait jamais rien, jamais une parole, je me roulais dans la poussière avec les chiens en poussant des petits cris de plaisir. C'est l'année de mes 4 ans, je crois, que j'ai commencé à répéter mes rêves pour ne pas les oublier. Pour répéter un rêve, on n'a qu'à fermer les yeux et refaire en sens inverse le chemin du rêve. Ça, ce sont des paroles de vraies négresses, tu sais, de celles qui n'ont jamais eu pour tout bien que leur rêve. À l'arrivée d'un autre sur les plantations, on les dépouillait de leur nom, de leur corps, de leur existence. Ne fais pas cette tête, c'est la vérité ce que je dis. Et pendant des siècles, d'autres ont usé, abusé, vendu, acheté, tué, rejeté, ignoré ces êtres que nous sommes. Alors que veux-tu? Tu as beau faire, tes rêves seuls t'appartiennent. Voilà. Alors, comme je le dis, c'est un récit mythique. Emma, qui est une femme qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique, prétend que pour comprendre la négresse qu'elle est aujourd'hui, il faut faire avec elle tout le voyage jusqu'au cale des bateaux négriers. Et c'est pour ça que dans le livre, elle parle souvent du bleu, le bleu de la mer, le bleu du ciel, enfin le ciel et la mer et ce bleu qui est tellement intense en Haïti et qui pour moi est comme une contradiction, un bleu tellement pur, tellement beau, une contradiction avec ce que le pays a toujours connu comme, enfin, chose innommable, vous voyez. Alors c'est à plusieurs reprises dans le livre, elle est en train de faire un récit et il y a une interprète qui est en train de traduire et elle revient avec toute cette question de ce que nous avons vécu sur les bateaux. Pour moi, il s'agissait d'écrire un livre plus que de parler de la question de l'esclavage, c'était d'utiliser le passé pour jeter un éclairage sur la condition actuelle d'une certaine catégorie de personnes. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai tenté de faire avec le livre des mains.
C'est un roman très complexe. Hein? D'ailleurs, je pense que c'est celui qui était le mieux reçu par la critique. Il était traduit en plusieurs langues. Celui qui est le plus connu peut-être en fait de la critique, parce que c'est un roman qui dénonce à la fois le racisme interracial, si on peut dire, parce que comme vous dites, Emma, elle est très foncée, elle était rejetée par sa mère Fifi, elle fait une thèse sur l'esclavagisme qui est recalé en France, et celle qui va l'aider à sortir un peu de son mutisme et de sa violence, c'est Flore, qui elle est trop pâle par rapport à elle. Hein?
Au fait, elle n'est pas trop pâle. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais posé les questions, comme on va voir en fait dans certains milieux en Haïti et ailleurs. Les gens, bon, ils ont la peau très claire et puis ils s'identifient plutôt à une autre catégorie de personnes. D'ailleurs, il y a des Haïtiens qui, en arrivant par exemple aux États-Unis, où ils sont obligés de travailler, où ils sont tout étonnés de voir qu'on les considère comme des nègres. Pour eux, vous voyez, parce qu'ils ont la peau très très pâle. Vous faites la grimace, vous n'êtes pas d'accord? Non, monsieur en arrière de vous.
Non.
Voilà, il y a des histoires, mais vraiment très 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 cocasses et pénibles qu'on a racontées sur ce genre de situation. Ils sont pas nombreux, enfin je l'espère, mais ils sont assez nombreux pour qu'on puisse en parler dans un livre.
Donc, il y a ces deux filons, comme je disais, ce racisme interethnique, pourrait-on dire, mais aussi le féminisme, quand même, qui pointe. C'est-à-dire que dans tout roman, il y a une chose qui frappe, c'est trois destins de femmes qui sont mis à l'avant-scène. Femmes victimes, mais femmes aussi bourreaux, on va y en venir tantôt. C'est-à-dire que malgré tout, Emma, elle est soupçonnée, et on devine probablement qu'elle a tué sa fille pour des raisons obscures, parce que le but du roman n'est pas de nous dévoiler, d'arriver à des aveux, mais quand même, elle est à son tour violente, en fait. Elle a été violente quelque part. Donc, en même temps, il y a... c'est pour ça que je dis que c'est difficile à décortiquer, parce qu'il y a ce racisme interethnique, il y a un filon féministe, mais en même temps... Il n'y a pas un regard complaisant vers les femmes non plus.
Non, pas du tout. Et ce regard non complaisant, je pense que plus on est féministe, plus il faut avoir ce regard non complaisant, parce que le féminisme n'est pas un angélisme. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on ne va pas dénoncer, des actes qui ont été commis par des femmes. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on va être d'accord avec Margaret Thatcher. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on va... Enfin, je sais pas, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer. Au fait, je pense que c'est un acte de féminisme de parler du pouvoir. Quand les femmes ont le pouvoir, qu'est-ce qu'elles en font? Vous voyez, je pense que au centre de l'alligator, c'est la question du pouvoir, enfin la question de l'impunité, mais aussi la question du pouvoir tel que utilisé par les femmes lorsqu'elles sont en position de pouvoir. Ce sont ces deux pôles-là qui m'ont en quelque sorte guidée, mais aussi la notion de la distance entre le bourreau et la victime. C'est-à-dire on est victime, mais c'est quoi la distance qui nous sépare du bourreau? Qu'est-ce qui nous manque pour basculer à un moment ou à un autre dans la position de bourreau? On le voit avec certains États, on le voit avec... Hein, je ne citerai pas des noms, hein, on n'est pas là pour là. Mais voilà, c'est...
Ça permet justement de faire le lien entre les deux derniers romans, le livre d'Emma et un alligator nommé Rosa. Par certains côtés, ils sont très apparentés et en même temps, ils semblent être à l'antipode l'un de l'autre ou présenter une antithèse. C'est-à-dire qu'on a affaire, au début du récit, à deux femmes muettes. Emma, au début, ne parle pas. Ça prend tout pour que Flore arrive à gagner sa confiance et faire en sorte qu'elle se livre. D'abord, elle est récalcitrante. Et Rosa, évidemment, pour les raisons qu'on va vous exposer tantôt quand on va lire l'extrait, Rosa, qui était tortionnaire, qui faisait partie des fillettes Lalo, qui était donc à la solde du Duvalier, était encore plus cruelle que les hommes qui étaient dans la milice. Elle, au contraire, elle est dans la position du bourreau et elle est complètement muette pendant presque tout le roman.
Je ne sais pas si elle était plus cruelle. Je ne sais pas.
on va y revenir. Non, mais il a présenté une façon quand même particulièrement horrible dans le roman quand même. Donc peut-être qu'elle n'était pas plus, mais le lecteur se sent quand même presque agressé par
sa laideur,
par son personnage et par le fait qu'elle demeure muette et qu'elle ne veut pas du tout reconnaître
absolument.
À aucun moment les crimes qu'elle aurait commises. Alors on a deux personnes qui sont donc à l'antithèse, une qui semble être d'abord une victime, Emma, une autre un bourreau, et vous avez encore là, c'est une façon assez habile de mener la narration, à la fin on se rend compte que Emma, ben elle est quand même pas seulement victime, elle a probablement assassiné sa fille, même si ça reste dans le noir, et Rosa, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit punie à la fin, mais vous la rescapez quelque peu. Alors on est dans une situation un peu ambivalente là, où le lecteur sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce que vous êtes consciente que vous malmenez votre lecteur
oui,
comme ça?
Oui, je dois dire que même si je suis, enfin toujours, je me place quelquefois dans la position du lecteur, j'écris quand même en ayant à l'idée que ce texte va aboutir dans les mains d'un lecteur. Je suis assez compatissant pour le lecteur quelque part. Mais ce que je veux lorsque j'écris, c'est de livrer ceci au lecteur pour qu'il fasse lui-même un exercice de confection de son propre roman après avoir lu ce roman. Vous voyez qu'il n'ait pas en main un texte totalement achevé et les réactions que j'ai des lecteurs sont quelquefois assez, enfin, je pense que j'aboutis à ce que j'ai envie, là où je veux le mener, parce que les réactions sont quelquefois assez, oui, mais c'est pas comme ça que tu devrais le finir, c'est pas comme ça, mais ça ne se fait pas, et patati et patata, et j'aurais fait de telle manière, c'est-à-dire les réactions sont vives et très, au fait, je veux que le lecteur participe en quelque sorte à l'élaboration de cette histoire, et c'est un peu pour ça que je termine un peu de manière très,
c'est ça.
Avec une forme de désinvolture, sans doute, peut-être.
Non, mais non, c'est parce que vous ne jugez pas. En fait, il n'y a pas de point de vue dans le roman qui juge ces personnages-là.
Non.
Évidemment, il y a des personnages, d'autres personnages, ça, oui. On voit Antoine, évidemment, on comprend très bien sa haine de Rosa. On comprend que le médecin est frustré de ne pas arriver à aider Emma à s'en sortir. D'accord, ça, c'est des points de vue de certains personnages. Mais nous, comme lecteurs, on sent qu'on doit se faire nous-mêmes une idée.
Au fait, ce que j'essaie de faire consciemment, c'est de mettre le lecteur mal à l'aise et de lui dire, voilà, il y a ces choses-là existent. Voilà, je mets ça entre tes mains, je les mets dans ton cœur, je les mets maintenant, débrouille-toi avec. Il y a quelqu'un qui a lu le livre d'Emma et qui me téléphone après, qui me dit, mais tu sais, j'étais obligée d'aller marcher pour sortir tout ce que j'ai emmagasiné avec ce livre, le sortir de moi-même. Alors, c'est un peu ça, c'est que moi, je dis souvent que j'aime lire des livres qui restent en moi, qui restent avec moi. Et je pense que j'essaie d'écrire aussi des livres que le lecteur ne va pas abandonner une fois qu'il arrive au mot fin. Vous voyez que ce livre reste avec lui et qu'il l'habite pour un certain temps et qu'il continue à réécrire l'histoire à sa manière.
Ce serait peut-être le bon moment de nous lire un extrait de Un alligator nommé Rosa.
Alors, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, l'histoire se passe dans le sud de la France. J'ai choisi ce lieu parce que, pour souligner un peu le fait que la France, c'est un pays qui a accueilli, enfin, son lot de tortionnaires, d'anciens militaires ou de je ne sais trop, africains ou autres. Bokassa avait trouvé refuge en France. Duvalier y est encore, dans le sud de la France, une région très très belle, mais aussi très très chère. On a souvent dit qu'il n'avait plus le sou, pourtant il continue à vivre en France. Je ne sais pas si le gouvernement français lui donne enfin de quoi vivre dans le sud de la France. Alors c'était avec cette idée-là que j'ai situé le roman en France, mais aussi parce que d'autres personnes, d'autres ministres, anciens ministres, gens des régimes de Duvalier ont élu domicile en France. Il y avait un ministre Merceron, il y en avait d'autres, vous voyez, qui ont toujours trouvé très accueillante un certain silence et une certaine complicité, il faut pas avoir peur de le dire. Alors Rosa Bosquet, comme le disait monsieur Dupuis, c'est une femme qui a été ce qu'on appelle chef des escadrons de la mort sous Duvalier. Lorsque j'étais enfant, j'entendais parler de cette femme, mais avec beaucoup de désinvolture. C'est-à-dire, on la traitait comme on traite les femmes. Qu'elles fassent de bonnes choses ou qu'elles fassent des choses horribles, elles sont traitées avec, ah, mais non, ce n'est rien, c'est une femme, vous voyez, un peu comme ça. Pourtant, j'ai fait des recherches pour écrire le livre où je l'ai vu avec, j'ai vu des discours qu'elle a écrits. C'était pas une femme bête du tout, des discours. Je l'ai vu avec son uniforme de milicienne, son fusil en bandoulière, en train de haranguer les troupes, les hommes qu'elle, et lorsque j'ai commencé à écrire le livre, que j'ai commencé à parler aux gens, j'ai pris à parler aux personnes qui étaient plus âgées que moi, qui la connaissaient, j'ai appris qu'elle faisait des interrogatoires, elle était tortionnaire, elle tuait des gens comme tous les hommes, et on avait très très peur d'elle. J'ai aussi appris qu'elle avait une passion pour les armes, toute jeune déjà, des personnes qui étaient, enfin, qui la connaissaient de manière très intime. Et je me suis basée sur, j'ai combiné l'existence de cette femme que je ne connaissais pas et cet événement qui m'a marquée, mais de manière vraiment incroyable, dans l'enfance, de cette maison qui avait brûlé. Et Antoine, ce personnage qui lui demande des comptes 40 ans après, j'en ai fait un personnage qui a été rescapé par un miracle de ce massacre. Lorsque cette maison a brûlé, il y a un enfant qui était dans la maison au moment de cet incendie et dont on a toujours dit qu'il avait disparu. Personne ne savait ce qu'il est advenu. C'était un bébé dans un berceau. Alors, il y a tous ces éléments qui composent au fait ce roman. C'est pas vraiment l'histoire de cette femme, mais son existence, il paraît même qu'elle avait vécu au Canada. Je suis pas très sûre, mais ce sont peut-être des ragots, vous voyez, alors. Alors, je vais vous lire un passage où cet homme rentre dans la chambre où se trouve Rosa Bosquet, qui est très diminuée, qui est très vieille, qui est paralysée et qui a fait la demande d'un infirmier, qui a mis une annonce pour un infirmier. Et cet homme arrive pour jouer le rôle de l'infirmier, mais dès qu'il rentre dans la chambre, la femme le reconnaît parce que non seulement il porte le même nom que son père, mais avec les années, il est devenu comme une copie conforme du père. Il lui ressemble beaucoup et comme elle l'avait elle-même abattu de son pistolet, il y a un regard qu'elle n'a pas su oublier. Ainsi, tu es Rosa Bosquet. Moi, je suis Antoine Guibert. Tu le sais déjà, mais je te le répète. Je ne te tends pas la main, je n'y tiens pas. Tu te mettrais certainement à braire. Et puis tiens-toi le pourdit, rien ne sert de crier. J'ai l'intention de rester ici tout le temps qu'il faudra. Juché où elle est sur ce pic, ta maison est isolée de tout. Tu auras beau bramer, t'époumoner, personne ne t'entendra. J'ai dû me battre pour obtenir ce poste d'infirmier, je me battrai pour le garder. Que l'agence offre le double du salaire réglementaire ne m'a pas facilité la tâche. Un nombre impressionnant de candidats était prêt à tout pour se mettre en route vers Gourdet, l'Eldorado. En ces temps de vaches maigres, tu n'imagines pas la cohorte de chômeurs qui s'exileraient ici pour 3 fois moins. Entre mer et montagne, Gourdet domine toute la côte. Vue imprenable, site admirable, rocher isolé au cœur de la Méditerranée. Gourdet, la plus belle carte postale du Midi. Tu brûles sans doute de savoir pourquoi l'agence a arrêté son choix sur moi. J'avais un atout de taille. Tu le devines? Non, c'est simple. Mon talent pour l'écriture. Peut-être un héritage de mon père. Comme tu le sais, Antoine Guibert était l'un des meilleurs journalistes de son époque. Plume caustique et précise. J'ai donc été choisi pour mes aptitudes à écrire et aussi mes 3 années d'études de médecine. Tu as insisté pour qu'on t'envoie un infirmier doublé d'un bon scribe. Me voilà. Les bras croisés, Antoine va et vient dans la chambre. Il parle et fait résonner ses pas. Il consulte soudain sa montre. « Ma parole, s'exclame-t-il, le temps passe et toi, tu te contentes de me regarder et de hurler. Qu'espères-tu, Rosa Bosquet? M'hypnotiser? Me subjuguer? S'agit-il d'un rite, d'une épreuve initiatique? Tu as décidé d'engager quelqu'un, en l'occurrence moi, pour t'aider à rédiger tes mémoires. Je le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, le souvenir des miens. Je le jure, je ne serai pas payé à ne rien faire. Au travail et sans délai. » Rosa hurle. « Tu sais bien que ma présence ici ne relève pas du hasard. Disons que le hasard est venu à ma rescousse. Et certains hasards tiennent du mystère, c'est vrai. Rappelle-toi ce vieux proverbe. Un jour pour le chasseur, un jour pour le gibier. Aujourd'hui, un autre porte les bottes et tient la cravache, Rosa Bosquet. Il se nomme Antoine Guibert. Tu as bien entendu? Guibert. Antoine Guibert, hurle-t-il, détachant soigneusement les syllabes. Le corps agité de spasmes, il s'avance à nouveau vers le lit. Dorénavant, je suis le maître de jeu, Rosa. Sous mes bottes, je te ferai punaise, cafard, ver de terre, je t'aplatirai sans pitié. Il fait mine d'écraser quelque chose sous son talon, provoque un grincement terrifiant. Rosa semble prise de convulsions. Il n'y a personne ici pour entendre tes braiements, Rosa, lâche Antoine la voix dure. Nous ne sommes que deux, trois et moi, dans cette immense maison. Que croyais-tu? Que tu fais partie de la race des élus et que tu n'aurais jamais de compte à rendre? Que tu dormirais sans jamais t'inquiéter dans la tiédeur douillette de ton lit? Que tu jouirais jusqu'à la fin du sommeil paisible du juste pour mourir de ta belle mort? Rien à dire? Étonnant. Alors je parlerai, moi, sans jamais m'arrêter, et tu m'écouteras. Je parlerai jusqu'à ce que nous en crevions tous les deux. Tant et aussi longtemps que j'aurai des mots pour te flageller, tu m'écouteras. Tu écouteras ma voix jusqu'à ce qu'elle meure épuisée. Mot à mot, tu apprendras mon désespoir. Tu referas avec moi, pas à pas, tous les chemins de ma détresse. J'ai galéré pour te retrouver. J'ai mis toute ma vie entre parenthèses pour te chercher. Je l'ai donnée tout entière pour cet instant où je me tiendrai devant toi. Oscillant sans cesse entre espoir et désespoir, comme un dément cherche un trésor, je t'ai cherché. Animé par une foi indéracinable et par cette conviction qui jamais ne me quittait, que justice devait être faite.
Ça, c'était que le début, hein? Mais contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il n'y aura pas de grosse violence, en tout cas physique. Il y aura évidemment une certaine violence psychologique, morale certainement, mais c'est surtout dans le langage que ça va se passer. On a déjà un cas ici un peu particulier, parce qu'on a vu dans des films, on a les chroniques, la victime qui se mange du bourreau, un homme de notre homme, à la limite la femme de notre homme. Mais là, on a un cas où c'est un homme qui vient se venger d'une femme qui a torturé, et ça, déjà, le lecteur est un peu décontenancé par rapport à ça. Ça serait peut-être la dernière question que je poserais sur les romans. J'irais que tous vos romans sont réalistes. Quand on les lit, on se rend bien compte que l'univers dans lequel vous campez votre fiction est réaliste. Et la narration est assez traditionnelle. Vous n'êtes pas la personne à inventer des jouer avec les formes, à faire des récits éclatés. Vous suivez un récit assez linéaire, avec évidemment parfois des retours en arrière. Mais je dirais que malgré tout, vos fictions sont déroutantes. Et on se demande toujours, mais d'où vient le fait qu'on soit à ce point-là dérouté, alors que le récit se laisse lire quand même assez simplement. Et on se rend compte que, bon, peut-être que dans Emma, on attendait des aveux, on attendait un verdict, ça ne viendra pas. Dans Un alligator surnommé Rosa, on s'attend à une vengeance éclatante. Cette vengeance, elle aura lieu, mais elle ne sera pas du tout violente comme on pouvait s'y attendre. On a presque l'impression que Rosa s'en tire bien, malgré tout. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui vous amène, si effectivement le côté déroutant, l'originalité est au niveau des sujets comme tels, qu'est-ce qui vous amène à choisir de tels sujets, à traiter des sujets aussi, en fait, j'arrive même pas à trouver l'expression, mais c'est, on dirait que c'est le sujet comme tel qui vous attire, qui vous capte le plus, et non pas tellement la façon dont je vais le traiter, mais c'est le sujet d'abord qui vous fascine.
Oui, je dois dire que ces sujets-là me fascinent. Je pense que l'avoir expliqué un peu au début, peut-être que si je n'écrivais pas des romans, je serais peut-être un journaliste qui écrit sur ce genre de sujet. J'ai besoin de parler de ces choses-là, que ce soit en poésie et même pour les enfants. Un de mes romans qui est le plus lu à l'école pour les enfants, c'est un livre qui parle de l'oppression, qui parle des dictatures, qui parle de lutte paysanne, et je suis tellement étonnée et enchantée à chaque fois que ce livre il est mis beaucoup au programme scolaire, que ce soit ici ou ailleurs dans d'autres pays, comment les enfants embarquent dans ces histoires, comment ils ont besoin de comprendre le monde dans lequel ils sont et comment ils sont frustrés quelquefois de voir qu'il y a des choses qu'ils ignorent. Vous voyez qu'ils ignorent. Et ce sont des livres qui vont ouvrir, par exemple, sur des discussions sur l'état du monde. Vous voyez, je pense que c'est une joie incroyable pour moi d'être dans une classe avec des enfants de 10, 11 ans et qui, tout à coup, commencent à, parce qu'ils ont lu Alexis d'Haïti et Alexis fils de Raphaël, qui sont des romans qui parlent de la tragédie des boat people et tout ça, et qui commencent à parler de l'état du monde, du commerce et du commerce qui n'est pas équitable et de pourquoi les gens sont pauvres et puis des rapports nord-sud. Ce sont des sujets que je choisis. Le livre, un des livres que je veux écrire véritablement pour les enfants, Mais le sujet est tellement difficile, c'est la question du trafic d'organes. Trafic d'organes, mais d'enfants dans le tiers-monde. Vous voyez, j'ai déjà acheté une revue pour mon fils et j'ai dû, à ce moment-là, il avait, je sais pas, 9 ans, Science et Vie, qui fait de la vulgarisation pour les tout-petits. Et j'ai dû enlever la page couverture où il y avait la photo d'un petit enfant de la Colombie avec un billet de $20 et un pansement sur les yeux. Et on lui avait enlevé un œil dans un hôpital. Vous voyez, alors, je ne me suis pas donné ça comme mission, mais je me dis que écrire fait toujours partie, enfin, selon moi, d'un devoir citoyen. C'est une manière pour moi de remplir ce devoir citoyen, comme je le remplis d'une autre façon. Quand les politiciens se présentent, par exemple, à ma porte, c'est arrivé qu'ils viennent pour les élections. De la ville, et le monsieur qui est le conseiller dans le quartier où j'habite depuis tellement longtemps, il vient frapper, mais juste pour serrer la main aux gens et faire le beau. Et je lui ai dit, mais donnez-moi 2 raisons pour lesquelles je devrais aller voter pour vous. Regardez l'état de la rue, regardez les trottoirs et regardez la saleté. Et au lieu de me parler, il descend, il s'en va. Alors moi, je me dis, c'est un peu ça. Le devoir citoyen, c'est être, avoir les yeux ouverts, que ce soit par ici ou là ou sur autre chose. Et puis c'est pour ça que je choisis ces sujets.
Ces sujets-là qui sont vraiment, qui sont pas faciles à traiter, mais vous arrivez à les traiter, comme je dis, sans parti pris. Alors, c'est ça qu'on sente un jugement de votre part, mais que effectivement le lecteur doit faire lui le travail de conscientisation et juger par lui-même au bout du compte. Faisons peut-être un retour en arrière maintenant, peut-être au troisième genre que vous aviez abordé. Évidemment, là, comme je dis, je bouscule la chronologie. La nouvelle que vous avez pratiquée, entre autres, dans Le silence comme le sang. Qui ont composé d'ailleurs de 4 nouvelles très brèves et une très longue, qui est une novella qui occupe la moitié du récit. Et d'abord, je vous poserai la question, pour vous, est-ce que pratiquer la nouvelle, ça présente un défi particulier par rapport au roman? Est-ce que vous écrivez la nouvelle exactement comme un roman? Est-ce qu'il y a des contraintes pour vous? Parce que c'est le seul recueil pour le moment qu'on a eu de vous dans ce genre.
C'est le seul recueil de nouvelles, mais j'ai continué à écrire des nouvelles qui sont publiées dans des revues, par exemple, dans des collectifs, en France surtout. Je dois dire que la nouvelle n'est pas traitée comme le roman, c'est-à-dire il n'y a pas cette assiduité, cette douleur de devoir être assise à une table, mais pendant des heures et à remplir, vous voyez, des pages et des pages et des pages pour écrire un roman, à vivre aussi avec autant d'intensité, avec des personnages parfois très très difficiles et à traiter de sujets comme par exemple le pardon ou le qui sont vraiment très très durs. C'est vraiment quelque chose d'assez pénible, l'écriture du roman, enfin, ces thèmes-là ou autres, je ne sais trop. La nouvelle, c'est quelque chose qui, dans mon cas, arrive un peu de manière très spontanée, un peu comme la poésie. Vous voyez? Alors, je travaille le texte comme je travaille tous les textes. C'est-à-dire, la langue, c'est quelque chose qui est très, très importante pour moi. Le travail sur la langue. Je dois dire, par exemple, dans le cas de l'Alligator, j'ai rédigé ce livre pendant deux ans et j'ai passé pratiquement 2 années à ce travail sur la langue. À un moment donné, quelqu'un m'a dit que pour le livre d'Emma, il a l'impression que l'histoire n'avait plus aucune importance pour moi, que c'était ce travail sur la langue. J'ai envie d'avoir une langue très simple, très dépouillée, très claire. Et une langue aussi où on retrouve cette musicalité, où on retrouve des images. Alors l'écriture, c'est un peu tout ça pour moi. C'est de la peinture, c'est aussi un théâtre. On a dit que les textes étaient c'était une écriture assez théâtrale, mais c'est aussi de la musique. Dans ce deuxième temps, dans ce travail sur la langue, je vais écrire à voix haute, parce que j'ai besoin d'entendre mes mots, d'entendre la parole, d'entendre, pour faire le choix des mots, de manière, esthétique, j'ai besoin de lire à voix haute, et c'est un travail qui me prend énormément de temps. La nouvelle, puisqu'elle est plus concise, j'ai peut-être beaucoup plus de plaisir à le faire, le résultat est beaucoup plus immédiat, vous voyez, mais voilà.
Vous m'aviez dit, il me semble, vous m'aviez déjà dit que ça vous servait un peu de laboratoire, c'est-à-dire que ça vous permettait justement de prendre un texte qui était peut-être un peu trop long et ensuite le retravailler pour
arriver au rythme
que vous cherchez.
Oui, la nouvelle me sert de laboratoire. Au fait, ce recueil de nouvelles a été aussi un laboratoire. C'était le deuxième ouvrage que j'avais publié après la dot de Sarah. Et il avait été mis en nomination pour le prix du gouverneur général. C'était un peu comme une confirmation de, ce travail, tu peux peut-être continuer à le faire. Alors, oui, la nouvelle sert aussi de laboratoire, et parfois on a des résultats, mais assez intéressants avec les nouvelles, puisque c'est moins long, c'est moins élaboré, vous voyez, alors c'est un peu le laboratoire de l'écriture. C'est là aussi où j'ai ces différents styles d'écriture.
Oui, c'est ça. On n'aura pas le temps d'en lire tout une au complet, mais peut-être pourriez en lire un extrait pour qu'on ait un peu des résonances de la façon dont vous travaillez la langue, justement, pour arriver à l'expression que vous recherchez.
Mais je vais en lire une qui est assez courte. Je pense que c'est l'une des premières nouvelles que j'ai écrites. Le titre « Deux jours pour oublier ». Ce sont des assassins. Je me réveillais la tête en feu, une douleur sans nom me balayait la poitrine et ces mots me pilonnant les tempes. Ce sont des assassins. Il fait gris dans la chambre, le silence durcit et m'engloutit. Dormir, ce même refrain depuis 2 jours, seul compagnon à ma détresse. 2 jours que me voilà cloîtré dans cet appartement, comme si cela suffisait. Je me cale contre les oreillers, j'allume une cigarette. La chambre tangue. Au pied du lit, un livre. Back to Eden, médecine botanique. Je tends la main. Elle tremble. Je ne prends pas le livre. Je ne le prendrai pas. Dedans, il y a ce papier bleu, cette lettre que je ne prendrai pas, que je ne veux plus lire, que je ne lirai plus. Plus de 100 fois, je l'ai lu, relu. Ligne après ligne, j'en ai épelé tous les mots, toutes les syllabes. Je ne comprenais pas. Comme un aveugle épouvanté, j'ai cherché le cœur en délire dans chaque ligne, chaque mot, un signe, rien. Je ne comprends toujours pas. J'ai bu tant d'infusions que ma tête est lavée, comme mes boyaux vidés. Depuis 2 jours, fleurs d'oranger, mélisse, tilleul, mon mal est sans remède. Telle une affamée, j'ai dévoré le livre sans trouver de potion pour calmer cet orage dans mon ventre et mon corps abandonné et malheureux. Back to Eden, ma chambre est un rafio, sans port, je vogue, je pleure, non, c'est la cigarette. Au pied du lit, le livre me guette sournoisement, s'anime, vient vers moi. Le voilà, je l'attrape, je l'ouvre lentement, comme une porte que l'on pousse doucement. Doucement, par crainte de quelque chose. Là, derrière. Page 347, menthe camomille, laissée infuser, calme les maux d'estomac, la nervosité. Et pour le mal des entrailles, je m'entends hurler, rien, rien du tout. Le papier bleu est là, page 347. Et si, encore une fois, une toute dernière fois, juste pour voir, enfin savoir, il y a sans doute une phrase, une ligne, un mot oublié ou lu de travers, un détail. Dans cette écriture serrée et nerveuse de Tante Célia, il y a sûrement quelque chose que je dois trouver, que je dois lire pour enfin comprendre. Tout de suite, il le faut. Non, pas maintenant. Déjà trop tard. Le jour se lève, 5 heures du matin. Dans 1 heure, il faudra que je m'habille, que je sorte de ma tombe. Attendre au coin l'autobus avec tous ces gens trop sages. Ces étrangers qui me regarderont, qui ne me verront pas, ou plutôt feront semblant de ne pas me voir pour ne pas se trahir. Parce qu'ils le savent, bien sûr, tout le monde le sait. Comment ne saurait-il pas que Robert n'est plus là? Comment ne saurait-il pas que nous étions ensemble là-bas l'été dernier? Ils savent, bien sûr, mais ils ont peur de le dire qu'on l'a trouvé mort sur la galerie, comme ça, comme rien, comme un rat, le corps troué. Il était 6 heures du matin, maman s'en allait à l'église, quelque chose retenait la porte, maman a poussé plus fort. Robert était là, derrière cette porte muette. Les voisins sont venus, ont consolé maman, essuyé ses larmes, réchauffé ses mains moites. Tout le monde chuchotait. Le fils d'Adèle, paraît-il, avait aussi disparu. Et André, on avait trouvé son corps dans le ravin. André avait 16 ans, sa guitare ensoleillait les nuits du quartier. André mort, avec ses rêves, dans le ravin, son petit corps de poète couvert de pierres blanches. Les bouches chuchotaient, la colère hurlait. Je sors mon corps du lit. Cela fait 2 jours que je m'y suis réfugié pour tenter d'enterrer mon désespoir. Mon patron a été généreux. 2 jours pour oublier, avait-il dit, en souriant et en me poussant par les épaules vers la sortie. 2 jours de congé, ma belle, pour te remettre. On ne meurt jamais avant son temps. Le patron avait parlé, le débat était clos, la vie continuait. 2 jours pour oublier le rire de Robert, les bruits de notre enfance, les souvenirs et leurs parfums. La lettre de Tante Célia. Deux jours pour oublier maman, sa peine immense, ses cheveux gris et ses mains qui tremblent. Jamais avant son temps? Je ne comprends pas. Je m'habille en titubant, ivre de mon impuissance. Les souvenirs se bousculent en moi. J'ai si mal. Vite maintenant, il faut y aller tout de suite, dans le métro et l'autobus, leur parler, leur dire « Écoutez, écoutez-moi, vous ne savez pas ce qu'il y a là-bas, vous ne savez rien. » Il y avait Robert et l'été tous les jours, il y avait la vie, les amis, les couleurs, les rires et la musique qui assaillaient nos corps. Tout cela est fini. L'île vomit des sortilèges. L'île rugit, personne ne l'entend. L'avenir est assiégé, il n'y a que des morts. Il tue tous les jours, tout le monde à toute heure. Il nous tue comme rien, comme des rats. Il y a 3 ans, c'était papa, puis le voisin, celui qui avait une belle barbe et qui riait trop fort. Et puis après, une nuit, ce fut au tour de Marie-Belle, celle qui adorait la vie mais n'aimait pas le général. Sur ordre du général, il lui en tranchait les seins. Avant-hier, c'était au tour de tous ces paysans qui aimaient trop leur terre. Et hier, c'était Robert. Mais Robert, c'était mon frère. Mes entrailles accouchent d'un cri de démence. Robert, c'était mon frère. Il aimait tant la vie, la terre de ce pays. Il s'y agrippait de toutes ses forces. Lorsque papa a disparu, je suis partie. Mais Robert disait, « Attends encore un peu et tu verras. Ils vont bientôt crever, ces salauds. Ils ne crèvent pas encore, les salauds, mais moi, je deviens folle. » On ne meurt pas avant son temps. Le patron a menti. Vite, je dois y aller pour lui dire, pour leur dire, dans les couloirs du métro, là où l'écho retentit le plus fort, pour crier que là-bas, nous mourrons tous avant le temps. Comme ça, en plein soleil, comme des rats. Nous mourrons tous n'importe quand, n'importe où. Sur les galeries, comme Robert. Égorgés dans un champ, comme Gassner. Fusillés dans un cimetière, comme Milou et Marcel. Sous les yeux épouvantés des écoliers convoqués pour le spectacle. Nous mourrons d'inanition et de torture, à petit feu, comme maman et tante Célia et tonton Max et les autres, de rage, de désespoir et de haine inutile, comme moi. Je sors dans le matin glacé, la lettre dans ma poche. Je la prendrai bientôt, je la lirai. Ainsi que la vague s'écrasant sur le récif, je hurlerai. Ce sont des assassins, des assassins. Merci.
Retrouve cette thématique toujours aussi dure, hein, mais avec un traitement poétique. Mais j'irais peut-être, effectivement, là, on entend, je pense, le travail sur le rythme, la rythmique du texte qui fait en sorte qu'à la fois vous martelez ce que vous dites, mais en même temps, il y a une beauté poétique et c'est troublant. C'est troublant de trouver cette beauté poétique pour traiter un thème aussi, aussi dur, aussi violent.
Je crois que si, c'est la poésie qui sert enfin en quelque sorte de filtre pour permettre au lecteur de vivre cela. Ce que je sens, la poésie, ça serait insoutenable quelquefois, même pour celui qui écrit.
Peut-être que la nouvelle, encore plus que le roman, la poésie, on la retrouve dans le roman, bien sûr, mais la nouvelle vous permet de filer cette poésie tout un texte en prose, quand même.
Oui.
Avant d'aborder peut-être le dernier genre, et non le moindre, parce que vous l'avez pratiqué avec beaucoup d'assiduité, je dirais, j'aimerais quand même vous entendre un peu sur votre expérience au théâtre. C'est la seule chose que je ne connais pas du tout de votre parcours. Je vois sur Internet que vous avez cette expérience, que vous collaborez ponctuellement au Bread and Puppet Theatre du Vermont. Et je me demande, est-ce que votre expérience, c'est dans l'écriture dramaturgique, dans la direction d'acteurs? Est-ce que vous travaillez sur la mise en scène? En fait, quelle est votre expérience au
théâtre? C'est plutôt dans les écriture. Au fait, je dis souvent que si je n'avais pas... Si le monde du théâtre était peut-être moins difficile là où je vis, au Québec, j'aurais sans doute été dans cette direction-là. J'ai toujours été attirée par le théâtre, passionnée par le théâtre. J'ai eu une expérience avec un groupe de femmes de différentes origines. Nous avons créé des pièces qui n'ont pas pu avoir enfin la diffusion qu'elle aurait pu avoir dans un contexte où c'est plus facile. C'est un monde très très difficile. J'ai pris aussi des cours d'écriture théâtrale pendant mon passage à l'université à Concordia. J'ai pris des cours où j'ai enfin appris plus ou moins à écrire des pièces de théâtre. J'en écris pas beaucoup, j'ai écrit quelques petites trucs pour la communauté. Il est arrivé qu'on m'ait demandé à écrire enfin, pour des groupes un peu de femmes ou autres, d'écrire des sketchs et des... Je n'ai pas écrit de pièces de théâtre en tant que telle, mais mon expérience la plus longue a été avec le Bread and Puppet Theatre, qui est un théâtre de marionnettes et de masques qui travaille dans le Vermont. C'est un théâtre très, très ancien. qui est dirigée par un homme qui est venu de d'Allemagne, qui était danseur lui-même avant d'être enfin de se lancer dans le théâtre, et qui a commencé aux États-Unis au moment de la guerre du Vietnam à faire du théâtre de rue, du théâtre de marionnettes. Et il y a un peu plus de 20 ans, j'ai commencé à aller travailler avec eux de manière chaque été, où il y a un festival de théâtre dans le Vermont. Malheureusement, depuis que je fais ce métier de manière, depuis les 7 dernières années, je ne peux plus me rendre parce que je suis toujours en déplacement, toujours partie. Je n'arrive pas à le faire, mais j'ai beaucoup appris durant ces 20 années en ce qui concerne le dépouillement des textes. C'est un théâtre très, très dépouillé, la concision, et puis c'est un théâtre très politique aussi, le Bread and Puppet. J'ai joué là des textes sur l'Afrique du Sud dans les années 80, sur l'Irak, au moment où on avait commencé toute la question de l'embargo contre l'Irak. Alors, de temps à autre, je continue à travailler avec eux. Parfois, ils viennent à Montréal pour des stages, et puis bon, si je peux, je me joins à la troupe, mais voilà, c'est un peu ça. Okay. Cette expérience.
Alors, au théâtre, on retrouve aussi donc votre engagement politique et ce goût du dépouillement. Donc, oui, vous parlez d'arriver toujours à une forme simple qui colle au réel. Hein. Je pense que ça, c'est très important aussi pour vous que, tout en étant très poétique, que ça colle à quelque chose de
ça
réel.
Ça colle au réel et ça doit être simple. Ça, j'y tiens et voilà. En fait, j'ai appris beaucoup avec mes éditrices, avec les années. Tout ce qui n'est pas utile à la compréhension du texte ne doit pas se retrouver dans le texte. Et c'est pour ça que je travaille. Des fois, c'est un peu difficile parce que ça devient un peu comme une manie, comme un tic de travailler jusqu'à ce que, bon, le corps crie grâce et qu'on arrête. Mais de revenir sans cesse sur les textes pour dépouiller.
Et c'est normal, là aussi, qu'on ne trouve pas toujours les textes, parce qu'on sait au théâtre, avant qu'une pièce soit publiée, il faut qu'elle ait eu un succès, qu'elle ait à l'affiche. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui sont lues, mais qui ne sont jamais publiées
par la suite.
C'est ça. Donc, c'est une particularité du théâtre. Donc, pour arriver donc au dernier genre littéraire, pour le moment en tout cas, on ne sait pas ce que vous nous réservez comme surprise, auquel vous êtes venu assez tardivement, la littérature dite de jeunesse ou pour enfants. Vous avez commencé à écrire vos premiers textes à la fin des années 90, les Alexis d'Haïti, Alexis fils de Raphaël, etc. Donc, et par contre, quand vous y êtes mis, il y en a eu plusieurs, et j'ai l'impression que c'est un filon qui est très riche de votre production. Alors, la question qui me vient à l'esprit, évidemment, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à écrire quand même relativement tardivement dans votre parcours des récits pour jeunesse? On dit souvent que quand on est rendu grand-père, père, grand-père, mère, grand-mère, c'est là qu'on tout à coup on commence à écrire pour la jeunesse. Je veux pas du tout aller trop dans votre biographie. Ou est-ce que c'est pas plutôt le fait que ça vous permet d'allier à la fois le conte, qui est quand même un genre pour lequel vous avez des affinités, et le récit?
Non, c'est arrivé un peu par accident. Lorsque La dot de Sarah a été publiée, il y a un éditeur jeunesse qui a lu le livre et qui m'a téléphoné et qui m'a dit qu'il a lu le livre et qu'il aimait beaucoup le style et qu'il voulait que j'écrive, qu'il dirige une collection, voilà, pour les enfants de 9 et plus, et qu'il voudrait que j'écrive. Mais je lui ai dit, mais je sais pas comment on écrit pour les enfants, je ne peux pas, mais c'est une femme qui a de la suite dans les idées, elle a passé pratiquement 2 ans à me téléphoner. Et à la fin, je me suis dit, bon, je vais écrire ce livre pour lui faire plaisir, parce qu'elle est très gentille, c'était tellement, tellement adorable. Bon, alors, bon, j'en ai fait 2 parce que j'avais pas compris très bien, la collection. Alors, j'ai écrit un livre qui m'a vraiment, rendu la vie impossible, un petit livre banal. Enfin, si on le regarde, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à camper le personnage jusqu'à ce que j'en rêve à un moment donné. Je me suis dit, bon, il va falloir que je termine ce livre, parce que de se mettre à rêver de nos personnages, là, c'est un peu grave. Alors, parce qu'à chaque fois que je devais corriger le livre, je me mettais à réécrire une autre histoire. Ça me stresse beaucoup d'écrire pour les enfants, même si j'ai écrit plusieurs livres, je trouve que c'est assez difficile d'écrire pour les enfants. Et quand on les côtoie, on se rend compte qu'ils ont leur propre logique. Ils sont de très très bons lecteurs. Et il faut que le livre soit beau, il faut qu'il y ait de la poésie, c'est pas facile. Souvent, on ne comprend pas les gens qui écrivent pour les enfants. On va se dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se publient aussi. Parce que j'ai déjà été sur, enfin, dans une situation où je devais lire beaucoup, beaucoup de livres pour enfants et je me disais, mon Dieu, il y a trop de choses qui n'ont pas de sens qui se publient, mais il y a aussi de très, très bons textes, vous voyez? Et c'est pas évident. C'est pas évident d'écrire pour des enfants, mais il faut dire aussi qu'il nous c'est une grâce de pouvoir le faire. C'est une grâce de pouvoir avoir accès à ce public. Ils sont d'une telle générosité et c'est à cause de la générosité des enfants que je me suis mise à leur conter des histoires et de fil en aiguille à écrire ces contes dans des livres. Ce qui est arrivé, c'est que lorsque j'ai publié ces deux livres, les deux tomes d'Alexis et un autre petit livre qui s'appelait Le Noël de Maïté, bon, sur une petite fille rebelle un petit peu. On mettait ces livres au programme scolaire et lorsque je rencontrais les élèves, ils étaient mais d'une telle beauté, d'une telle générosité que j'avais l'impression de leur prendre tellement que je voulais leur donner quelque chose avant de partir et je leur disais je vais vous raconter une histoire. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans les contes, j'ai commencé à leur raconter des histoires dans les classes avant de les quitter. Ils n'avaient pas l'habitude d'entendre des contes comme on les fait aux Antilles et voilà, je suis devenue conteuse par la force des choses. Une autre occasion de pouvoir être plus près d'eux, de les rencontrer plus souvent.
Ah, c'est une belle histoire. C'est une commande qui est devenue une addiction. Voilà. Par la suite. Voilà. Mais par contre, vous répondez aussi à une autre question. Vous devancez la question que je vous aurais posée. Le préjugé veut toujours que c'est plus facile. En fait, vous dites le contraire.
Non. Enfin, peut-être que pour certaines gens, c'est facile, mais quand j'écris, enfin, un livre, l'alligator, bon, on se laisse aller, on se laisse porter, mais les enfants, il faut peser chaque mot, il faut vraiment faire un bon choix des mots, et en même temps, il faut beaucoup de cohésion, il faut de la poésie, il faut tous les éléments d'un livre pour adultes, mais en même temps, on s'adresse quand même à des jeunes, vous voyez, alors je trouve ça que c'est un défi, c'est pas toujours facile.
Merci. Donc, avant de céder peut-être la parole à la salle, parce qu'on capte ces rencontres-là pour Radio Spirale, donc on aime bien avoir aussi vos questions, vos commentaires. Peut-être juste nous dire, Marie-Célie, quels sont vos projets en ce moment, ou si vous voulez nous parler un peu, est-ce que vous avez un roman chantier, c'est plutôt la littérature jeunesse ou...
C'est un peu tout, un peu tout. Je travaille de manière assez... Enfin, chaotique quelquefois, dans un premier temps. Et à un moment donné, je vais choisir un projet que je vais mener à terme. C'est-à-dire, j'ai un chantier, un recueil de nouvelles. Je veux écrire des nouvelles pour les jeunes. Ils sont de bons lecteurs et quelquefois, ils ne vont pas vouloir lire un roman et ils aiment beaucoup les petites histoires. Ils adorent aussi la poésie. Alors, je suis en train de travailler sur un recueil de poèmes, sur un recueil de nouvelles, et à un moment donné, je vais m'arrêter et, bon, mener un de ces projets-là à terme, et aussi d'autres choses. Des fois, il y a des textes que j'oublie même, et puis, bon, tout à coup, je les découvre, et puis, bon, si je les relis et que ça vaut la peine, je les sors et je les travaille, et puis, bon, voilà, c'est...
Donc, plusieurs projets en chantier.
Plusieurs projets en chantier. Quand est-ce qu'ils seront prêts, ça, je sais pas du tout, ça va dépendre de...
Et toute dernière question à deux volets, mais qui sont très courtes. Si vous aviez à choisir une seule qualité et un seul défaut, une seule qualité pour qu'un écrivain devrait rechercher selon vous et le défaut qu'il devrait absolument, dont il devrait se garder, ça serait quoi?
Le défaut dont on devrait se garder.
Quand on écrit.
C'est de se prendre trop au sérieux. Ne pas se prendre trop au sérieux, ça je pense que c'est l'un des problèmes des gens qui écrivent, peut-être aussi, enfin de beaucoup de gens, ou peut-être aussi de beaucoup d'artistes, ou je ne sais trop, mais c'est un problème, c'est assez difficile. Les gens qui pensent bon, qu'ils ont toujours une parole d'or, ou encore qui l'attitude de diva, assez souvent. Je pense que c'est un défaut, mais si je devrais dire une qualité, c'est de faire dans la simplicité. Moi, je pense que c'est... Il y a un écrivain qui m'a dit une fois, mais pourquoi est-ce que tu es toujours en voyage? Pourquoi est-ce qu'on t'invite toujours? Je lui dis, mais ce qui se passe, c'est que ce sont toujours les mêmes personnes qui m'ont déjà invité, qui me réinvitent. Alors, ça signifie peut-être qu'ils aiment le fait que je ne me prends pas pour une autre. Que j'avoue avoir plein de contradictions et puis ne pas savoir toujours de quoi je parle.
Sur ces paroles très sages, merci Marie-Célie de t'être prêtée.
Merci beaucoup.
Généreusement et chaleureusement à cette rencontre. Maintenant, la parole est à vous. On a encore un petit peu de temps. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, Marie-Célie est là pour... Alors, il faudrait aller au micro si ça ne vous dérange pas pour qu'on puisse vous capter.
Un petit paragraphe, je voudrais... voudrais poser ma question après.
Ah, ben allez-y.
Je me trop bien, je me pose
pas de pour merci vous. Beaucoup. Lequel, s'il vous plaît?
Celui-ci. Le premier en haut?
Oui.
Celui-là, OK.
Merci.
Ça, c'est le livre des morts.
Vivre dans une peau de négresse, c'est vivre en permanence dans une nuit sans étoiles, disait Mati. Une nuit dense qui nous pèse tel un fait. Voilà pourquoi nous voulons nous en défaire, nous éloigner d'elle sans regarder en arrière. Nous voulons fuir notre peau de négresse comme on fuit la nuit et ses démons. Ainsi, nous abandonnons les nôtres, nous faisons mourir nos enfants, nous fuyons jusqu'à notre ombre.
J'aimerais savoir ce que Mati, je pense qu'elle s'appelle Mati, veut transmettre un message ou quelque chose à c'est pas sa fille, mais et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle veut lui dire. Je sais que j'ai compris que les femmes sont très importantes d'une génération à l'autre. La lignée est importante et la mémoire est importante. Absolument. C'est ce que j'ai compris dans vos livres. Et je trouve ça très beau, puis ça me rejoint en tant que femme. Moi, j'ai beaucoup aimé vos livres. La dot de Sarah... vraiment beaucoup aussi. Merci. Alors j'aimerais comprendre ce passage-là.
Au fait, c'est peut-être c'est un livre aussi sur la transmission. Les transmissions, tout ce que nous avons à transmettre, moi j'y crois beaucoup. C'est peut-être transmettre la mémoire de la peau ou la mémoire des origines ou la mémoire de notre part de monde. Quelquefois les gens me demandent, j'ai 3 enfants, tes enfants, est-ce que tu les as élevés comme des Québécois ou comme des Haïtiens? J'ai dit pour moi c'était pas ça l'important. L'important c'était d'élever mes enfants d'abord comme des êtres humains avec des valeurs humaines et de leur parler du monde dans lequel ils sont nés. J'ai pas voulu dire à mes enfants vous êtes nés au Québec et bien là vous êtes des Québécois et puis on est en Amérique du Nord et puis tout est beau. Il a fallu qu'ils comprennent le monde et ça il n'y a que moi qui pouvais le faire. C'était important pour moi qu'ils sachent ce qui se passe en Afrique du Sud, qu'ils connaissent la situation des Noirs américains, qu'ils connaissent enfin ce que c'est que le racisme, qu'ils lisent certains livres, qu'ils sachent ce qu'a été l'Holocauste, qu'ils savent aussi ce qui se passe aujourd'hui, Israël, la Palestine, vous voyez? Alors c'est un peu ça, c'est cette mémoire, la mémoire de la peau si vous voulez, la mémoire des origines ou bien la mémoire de notre part du monde. C'est un peu ça, ce paragraphe. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Peut-être que c'est autre chose aussi, je ne sais pas. Il n'y a pas de quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce livre, c'est... Je n'ai pas voulu écrire sur l'esclavage en tant que tel, mais quand j'ai commencé à écrire l'histoire d'Emma, son histoire aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il fallait faire appel à cette mémoire. C'était important d'ancrer cet aujourd'hui dans ce passé. Vous voyez, même si la mémoire est ancienne, est-ce qu'on peut s'empêcher de faire appel à cette mémoire quelquefois? Vous voyez, et comme elle dit, elle le redit, elle nous poursuit cette mémoire. Elle nous poursuit, elle est, au fait, c'est regarder le présent à la lumière de ce passé.
En fait, là, vous répondez à la question de Rodney de la dernière fois à Anthony au sujet de tout le passé africain, que évidemment Anthony lui dit, moi je ne me sens pas du tout concerné par ça. Vous vous sentez pas directement concerné, mais ça l'apparaît quand même dans le livre d'Emma. C'est-à-dire, on peut pas faire l'impasse là-dessus.
Bon, directement concerné, oui et non. Moi, je dis souvent, Haïti, c'est mon pays, c'est mon lieu de naissance, mais je n'appartiens pas à Haïti. J'appartiens à une histoire, j'appartiens à la Caraïbe, j'appartiens à un continent, j'appartiens à des peuples, j'appartiens au tiers-monde. Et cette histoire du tiers-monde, je me définis comme une femme du tiers-monde avant tout. Ça vient avec son lot d'histoires. Et cette histoire part de l'Afrique. Il y a la colonisation, il y a tout ça fait partie de mon bagage et c'est ça qui m'a formée en tant que personne. Et ce que je suis aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, que ce soit en tant que brimade, de toute manière, je dis que c'est cette marginalité de l'écrivaine, de cette négresse, de cette femme issue du tiers-monde qui finit par mettre mon écriture au centre. Vous voyez? Je suis le produit de tout ça. Alors je ne peux pas renier ma part d'Haïti, je ne peux pas renier ma part de l'Afrique, je ne peux pas renier la part du tiers monde. Je suis tout ça. On n'est pas comment dire fait d'un bloc.
Oui, oui, tout à fait.
Vous voyez, les gens ont cette, comment dire, cette manière de percevoir. Mmh. Parfois, il m'arrive en France de dire aux étudiants, quand je les rencontre, mais votre histoire et la mienne se confondent. Mmh. Et ils sont tout étonnés, mais je leur dis, bien sûr, vous savez pas que la France a colonisé Haïti. Et que vous marchez dans des rues où vous regardez des édifices qui ont été construits souvent à partir de la sueur de mes ancêtres. Mm. Nos histoires se confondent et souvent les gens font cette grande erreur de penser que nous sommes tous tellement, mais nous sommes interdépendants. Mm. Vous voyez, alors c'est, je sais pas d'où est partie ta question.
Non, c'est d'une très grande honnêteté, mais c'est tout. En même temps, une terrible revendication.
Hein,
quand vous dites, je me définis comme femme du tiers-monde.
Ah ben oui. Ah ben oui, avant tout. Ouais. Avant tout.
Oui.
Et je le serai toujours.
Mm. Puis vous avez une très grande honnêteté. Je pense que ça, c'est l'autre qualité qu'on devrait faire ressortir chez les écrivains.
Ça, c'est dans... oui, tout à l'heure, j'avais parlé de ce texte que j'ai écrit, enfin, un peu pour essayer de voir si quelque chose qui fait mal peut faire moins mal, je sais pas. Alors le texte, c'est poème à ma fille. Déjà affaissée par la charge des souvenirs, l'aube se lève à peine. Oh mon enfant, ma toute belle, horreur suprême que ce métier de femme. En ce temps pour chacal et lycaon, comment te guider quand je ne sais moi-même le chemin? T'éclairer, moi qui ai souvent pris le 6000 or pour un métal précieux. T'abriter alors que mes bras se font trop courts et que mon cœur défaille sous la chape de plomb larguée sur mes épaules par le temps. Voici, voilà, ô ma fille, les oiseaux de proie battent le rappel. Voici, voilà, les reptiles et le bruit des crécelles. Une musique stridente annonce la danse des crotales, de l'autour et de l'épervier. Mon enfant, trop belle pour ce temps de chacal, comment te dire que nous parcourons le chemin comme des naufragés, sans savoir où nous arrimer. Que nous allons dans la vie le cœur lourd, mais combien vide, et que malgré tout, il faut savoir aimer. Comment te protéger quand mon amour lui-même devient impuissant? Ô mon enfant, horreur suprême que ce métier de mère. L'aube se lève à peine, te voilà déjà, ployant sous la trosse des souvenirs. Trop belle pour ce temps de chacal, comment te secourir quand je ne peux plus avaliser les mensonges, peindre et repeindre sans cesse des jardins endormis, te dire que les ciels seront toujours bleus. Comment te faire comprendre que j'ai passé ma vie, toute ma vie, à étaler soigneusement les pastels pour voiler la pourriture. Te souviens-tu des petits mots d'amour glissés au milieu de tes cartables, de tes goûters, parchemin de tendresse jaunie que tu conserves encore aujourd'hui, dans un tiroir, entre les pages d'un cahier. Te rappelles-tu ces émois? Comment te dire qu'après cela, après cela, oui, il n'y aura que la souffrance, la vérité ou plutôt ce qui lui ressemble et la logique des oiseaux de proie. Ô mon enfant, ma toute belle, la peur n'en finit plus de grandir en moi. Comment dire que l'espoir ne suffit pas pour vivre et que le désespoir tue? T'expliquer que la souffrance pure et silencieuse doit être et que tu ne confieras ton désarroi qu'au fleuve. Lui seul, entends-tu, lui seul emmène les choses loin, comme par hasard. Comment te démontrer que l'existence est courte et la mort, embusquée à tous les carrefours, grimace affreusement pour te glacer les veines. Ô ma toute belle, j'ai beau étaler le tarot de ma vie, n'y apparaît que le funambule, banquiste grimaçant, qui malgré sa volonté tombe sans pouvoir se relever. J'ai beau prier, supplier, appeler, les divinités ne répondent pas. Impassibles, elles demeurent et ne laissent voir qu'au tumulte de la meute, à la fureur des bêtes folles, et ce torrent de misère sur son passage arrache tout. Comment te dire que certains jours, tu te sentiras sans défense, comme un ver de terre nu dans ta détresse? Dire aussi que les chagrins gardent leur sel pour toujours. Comment te dire que certains jours, tu voudras être pélodite et t'enfoncer à jamais au plus profond du ventre de la terre, pour les semer au fond de la terre, ce qui reste quand on oublie tout, ce qui reste quand on n'a plus rien. Elle seule te protégera. Elle seule est l'éternité. Et malgré tout, il faut pouvoir aimer.
Merci. bien, merci beaucoup, Marie-Célie, pour toute cette générosité. Et merci à vous d'être, vous êtes déplacée pour cette soirée. Donc, on va rester merci là beaucoup. Si les gens veulent venir merci, rencontrer l'auteur.
Merci beaucoup, merci. Je sais que M. Dupuis est tellement occupé. Merci d'avoir pris le temps de faire cette rencontre. Voilà.